Chapitre 6. Madame Aftalion n'avait pas déjeuné quand, vers 3 heures de l'après-midi, Nicolas entra dans sa chambre. Elle était allongée, tout habillée sur son lit. À l'arrivée de son fils, elle ne leva même pas la tête. « Qu'est-ce que tu as, maman ?» D'un geste là, elle désigna l'armoire. « Nous n'avons plus d'argent !» Tant que durèrent les 20 000 francs qu'elle avait réalisés avant de quitter Nice, elle ne s'était jamais figuré un instant qu'un jour elle pourrait se trouver sans ressources. Partout où elle avait passé, ce fut dans l'armoire à glace qu'elle cacha sa petite fortune. Elle en faisait plusieurs pas, qu'elle dissimulait, l'une entre le cartonnage d'une boîte à parfum et le flacon, une autre sous une chemise, une autre encore sous le rayon le plus haut qui était toujours vide. C'était un instinct naïf d'insecte qui lui commandait de diviser ainsi ce qu'elle possédait et de brouiller chaque jour les cachettes. Lorsqu'elle prenait 100 francs, elle ressentait une émotion violente à la pensée qu'il ne restait par exemple que 12 000 francs au lieu de 13, comme elle le supposait. À mesure que l'argent fondait, il lui apparaissait de plus en plus nettement qu'un jour elle ne pourrait payer ses dettes, qu'il ne fallait plus songer à aller en vacances. Une multitude de réflexions dans le genre de celle-ci lui venaient à l'esprit. « Que pensera le coiffeur si je ne viens plus? Je ne pourrai plus sortir !» etc. Toutes les distractions dont elle devrait se priver défilaient devant ses yeux. Le théâtre prenait l'importance du pain. Moins lourd, il était pourtant tellement lumineux que l'équilibre se faisait. Elle recomptait alors son argent, puis, lorsque l'armoire était fermée, ses soucis s'envolaient. Elle se forçait à ne plus penser. À peine sortait-elle que tout ce qu'elle voyait la tentait. Des œillets, à la devanture d'un fleuriste, l'arrêtait. Pendant un instant, une voix lui disait de ne pas en acheter. Puis, une sorte de brouillard enveloppait ses réflexions. Elle entrait machinalement dans le magasin, choisissait le plus bel œillet, ouvrait son sac et, comme si elle eût agi en un rêve, elle payait. Dehors, pour voir la fleur que le marchand avait fixée à son épaule, elle baissait la tête. Comme inconsciente, elle ne prenait garde à rien. De temps en temps, elle répétait, sans se rendre exactement compte de ce qu'elle disait, « C'est le dernier. Ce n'est pas cela qui changera grand-chose. Un peu plus tôt ou un peu plus tard. » Le lendemain matin, en trouvant l'œillet fripé et sali par la poussière de la rue, car pour la nuit, elle le mettait à la fenêtre dans un verre d'eau, elle éprouvait une minute de découragement. De nouveau, elle ouvrait l'armoire, comptait son argent, puis, à peine sortie, oubliait tout. Ce qui s'était passé pour un œillet se renouvelait pour des bas de soie, pour un sachet à poudre, pour des gants. Ce qu'elle dépensait malgré soi, elle essayait de le rattraper sur les pourboires. Elle demandait alors à Nicolas « Crois-tu que j'ai assez donné ?» Ou bien elle s'excusait ainsi. « Que tout le monde donne autant que moi !» Madame Aftalion ne pouvait vaincre le besoin de dépenser. Ce n'était qu'après qu'elle ressentait cette oppression qui suit les fautes ou les instants de dégradation. Dans sa genèse, elle avait chaque fois refoulé ce sentiment désagréable. D'une nature timide et fière, elle n'avait jamais osé prononcer un mot quand les bonnes lui prenaient quelque chose. Souvent, elle les avait surprises, mais par une sorte de pudeur, elle en avait été plus gênée que les bonnes elles-mêmes, au point que, par une question quelconque, elle les mettait à l'aise. À présent, de tels actes lui se transportaient de colère. Elle était incapable de résister à cette force qui la poussait à dépenser. Aussi n'eût-elle pu supporter que d'autres lui prissent ce qu'elle ne savait garder. On disait qu'elle n'était pas avare quand il s'agissait de son plaisir. Pourtant, elle était généreuse. L'orgueil, le désir de paraître, l'avait amenée souvent à faire des cadeaux, à donner des pourboires disproportionnés, cela comme un véritable état d'hypnose. Elle ne se rendait alors pas compte de ce qu'elle faisait. Elle oubliait sa condition, et, s'imaginant être quelque princesse de conte, elle répandait autour d'elle son bien pour jouir des courbettes, des sourires, des prévenances qu'elle discernait dans une brume. Le feu de la générosité passée, elle comprenait qu'elle avait été trop loin et se prenait à regretter ses excès. Il en était ainsi d'ailleurs pour tout. Alors que Nicolas ne se souciait pas de ce qu'il n'eût point fait il y a quelques années s'il avait eu de l'expérience, Madame Aftalion, elle, déplorait une foule de choses et se figurait que c'était par sa propre faute que sa vie était gâchée. Aussi, avant d'agir, hésitait-elle à présent longuement, tant elle craignait de se tromper et de souffrir dans l'avenir, plus par le souci qu'elle se ferait que par la conséquence de cet acte. Au seuil du dénuement, ses regrets devenaient maladifs. Elle entrevoyait l'existence qui eût été la sienne si elle n'avait pas écouté son cœur ni laissé son mari disposer de sa fortune. Comme certaines femmes qui s'imaginent que les hommes ont profité de leur naïveté, elle regrettait les générosités de l'amour. Mais ce qui lui rendait le moment présent encore plus pénible, c'est qu'elle se sentait libérée de toutes entraves et si apte à savoir comment jouir de la vie, et cela justement au jour où elle ne possédait plus rien. Son fils avait beau tenter de la réconforter en lui disant « Ce qui est fait » ou « Cela ne sert à rien de revenir en arrière », le sentiment de ne pouvoir s'en prendre qu'à elle-même s'ajoutait à sa détresse. « Si c'était à recommencer !» revenait sans cesse sur ses lèvres. Il lui semblait alors qu'elle eût tout prévu. Pourtant, il ne lui vint jamais à l'idée de penser au lendemain. Toute la matinée, Madame Aftalion avait pleuré. En ouvrant son armoire, elle avait constaté qu'elle ne possédait plus qu'un billet de 100 francs. Comme si les semaines précédentes ne l'avaient point préparée, elle avait poussé un cri de stupeur. « Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible !» En vain, elle avait fouillé partout. Puis, s'allongeant de nouveau, elle s'était mise à sangloter. « Et les dettes ! Et les dettes ! » avait-elle parfois balbutié. À l'idée qu'elle ne pourrait les payer, elle avait tremblé de peur. Elle était anéantie. Il lui semblait que, de toutes parts, on allait justement venir, à cette minute, pour lui réclamer de l'argent. Nicolas, qui s'était penché à la fenêtre, revint au milieu de la pièce. « Il doit rester tout de même un peu d'argent. Tu ne vas pas me faire croire que tu as dépensé 2000 francs depuis l'autre jour. »
« Tu as raison, il reste 100 francs. »«
Et le pouce ?»«
Qu'est-ce que tu veux dire avec ton pouce? Que tu es agaçant? Est-ce que tu veux comprendre, oui ou non, où nous en sommes? Réfléchis donc au lieu de dire des imbécilités. Et le pouce, c'est tout ce que tu sais dire. »
Nicolas s'était vautré dans le fauteuil de cette même manière que son père lui avait jadis tant de fois reproché. À son anxiété s'ajoutait un certain contentement. Quelque chose allait certainement arriver. La nécessité l'obligerait-elle à travailler? Obtiendrait-il, par exemple, un haut poste aux colonies? Il se voyait, marchant en toute liberté, commandant à des subordonnés. Depuis qu'il rêvait d'être maître de sa vie, jamais il n'avait senti ce moment si proche. Quand il y réfléchissait, il s'apercevait que cette indépendance se résumait à peu de choses. Jusqu'à présent, il ne l'avait expérimenté qu'au cours de quelques voyages. À l'idée qu'il était seul, que personne ne s'attachait à lui, qu'il n'avait besoin d'aucune aide puisqu'il possédait tout ce qu'il désirait, la beauté d'une existence se déroulant tout entière comme en séjour de déplacement lui était apparue.
« Qu'allons-nous devenir ? » demanda brusquement Madame Aftalion.
« Nous allons bien voir. »
« Tu dis toujours cela ! « Eh bien oui, nous allons bien voir, nous allons bien voir.
Que veux-tu que je te dise d'autre ?»«
Rien, je ne sais pas, tu ne bouges pas, tu restes là comme si tu étais de bois. Bouge donc, on dirait que tu attends je ne sais quoi. Fais donc quelque chose, remue-toi, je te le dis franchement, nous n'avons plus d'argent. »«
Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?»«
Et moi ?»«
Je ne te demande rien. »
« Mais moi non plus, je ne te demande rien. »
« Alors, tout est bien. » À peine Nicolas eut-il prononcé ces derniers mots que sa mère éclata.
« Tout est bien, tout est bien. Tu es fou, tu ne sais plus ce que tu dis. Mais regarde donc, regarde cette chambre, regarde, et tu ne comprends rien. »
Madame Aftalion parlait si vite qu'elle mangeait des mots, que ce qu'elle disait était par instant incompréhensible. Soudain, elle s'arrêta net. Elle s'était levée. Le regard qu'elle promena autour d'elle avait quelque chose de morne.
« Je vais te montrer. Tu comprendras peut-être, » fit-elle avec un calme subit.
Elle s'assit à la petite table, repoussant en même temps de l'avant-bras les multiples objets qui la recouvraient contre le mur, puis, prenant une enveloppe, inscrivit toutes les sommes qu'elle devait, majorant chaque dette pour faire un chiffre rond, afin que, s'il lui arrivait de se libérer, il lui restât quelques centaines de francs. Soudain, elle s'arrêta. Elle n'avait jamais eu la patience d'écrire ni de compter. Elle regarda l'enveloppe avec frayeur, sans que lui vînt seulement l'idée d'additionner les chiffres.
« Cela ne sert à rien, » dit-elle.
« Quoi ?»«
Je te dis que cela ne sert à rien. »
Elle s'approcha de la glace de l'armoire et, durant une longue minute, se contempla des pieds à la tête.
« Cela vieillit une femme, des histoires pareilles. Le jour où j'ai rencontré Alexandre, j'aurais mieux fait de faire... je ne sais pas quoi. »
Elle parlait avec détachement, tout en arrangeant ses cheveux. Pourtant, à sa poitrine qui se soulevait, au tremblement de ses doigts, on devinait qu'elle était bouleversée.
« Je sors, » dit-elle tout à coup.
« Où vas-tu, maman ?»«
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que je sorte. Je ne peux plus rester ici. J'aime mieux être seule, n'importe où. J'irai voir Thérèse. » Elle ne me recevra pas.
On ne sait jamais.
Mais j'aurai fait tout ce que je peux. Je ne peux pas faire plus. Tu voudrais peut-être que je mendie dans la rue, ici, par exemple, devant l'hôtel ?
De nouveau, Madame Aftalion parlait avec rapidité. Sans savoir pourquoi, elle avait mis l'enveloppe sur laquelle étaient inscrites toutes ses dettes dans son sac. Une dernière fois, elle se regarda dans la glace de l'armoire que, machinalement, elle manœuvra pour se voir de dos dans celle de la cheminée.
« Ce n'est pas la peine de fermer à clé, » fit Nicolas. « C'est vrai, ce n'est pas la peine. Les voleurs savent bien qu'il n'y a rien ici. »
Elle tournait et retournait son sac dans ses mains nues.
« Prends tes gants, tu n'es pas obligé de les mettre. »
À la tête du lit se trouvait une poupée que Madame Aftalion avait achetée un soir dans un restaurant de nuit. Elle l'appelait Mémé. Il ne se passait pas de jour qu'elle ne l'embrassât ou ne lui parlât comme à une enfant. Depuis plusieurs minutes, elle était prête. Soudain, dans un mouvement de colère qu'elle ne put réprimer, elle frappa la poupée qui alla rouler devant la cheminée, sur le marbre où elle jetait les emballages de ses achats, les fleurs fanées, les épluchures de fruits et les vieux journaux.
« T'es folle !» fit Nicolas.
Durant un instant, elle demeura frappée de stupeur, puis elle balbutia.
« C'est vrai, je suis folle, je suis folle. Ramasse-la, Nicolas, remets-la où elle était. Je deviens folle !»
Avant même que son fils fût levé, car lorsqu'il était assis dans un fauteuil, c'était comme le matin au lit, il n'arrivait pas à se lever, elle ouvrit la porte.
« Je m'en vais, tu la ramasseras. »«
Quand reviens-tu ? » ?»«
Je ne sais pas, comment veux-tu que je le sache ?»
Après le départ de sa mère, Nicolas ôta son veston, tira les tentures, s'allongea et ne tarda pas à s'endormir. Il faisait chaud. Des mouches volaient autour de la lampe électrique dont l'abat-jour, que Madame Aftalion avait confectionné avec du fil de fer, un carré d'étoffe rose et des perles de bois, était couvert d'une épaisse couche de poussière. Vers 6 heures, il s'éveilla. De s'être reposé dans le jour, il se sentait lourd et comme endolori. « Allons, un peu d'énergie, pensa-t-il. Remuons-nous, agissons. » Il se rafraîchit, se peigna, mit de l'ordre dans la pièce, effaça les plis du couvre-pied, puis sortit. La pensée que sa mère se trouvait à présent chez sa sœur le réconfortait. Il espérait beaucoup de sa démarche et craignait, à chaque coin de rue, de la rencontrer. De toutes ses forces, il souhaitait qu'elle ne rentrât pas avant le milieu de la nuit, ce qui serait l'indice qu'elle avait été bien reçue et que les choses s'étaient arrangées. Après s'être promené durant 1 heure, il passa devant le Knox Hotel et, du trottoir opposé, regarda si la fenêtre de la chambre de sa mère était toujours entr'ouverte, comme il l'avait laissée. Les deux battants n'avaient pas bougé. « Bon signe, dit-il. En ce moment, maman a peut-être déjà l'argent. » Nicolas était regaillardi. « C'est bien cela. Lorsque le début est bon, tout ce qui suit l'est également. » La vie lui apparaissait sous un autre jour. Il ne savait où aller. Il entra au Monaco. Comme il faisait le tour de la salle à la recherche d'une figure de connaissance, ses yeux croisèrent ceux d'une jeune femme. Elle était vêtue de manière à faire ressortir les formes de son corps. On devinait la beauté de sa poitrine que voilait une robe imprimée à bon marché. Elle avait croisé ses jambes sous la table. Des chaussures basses, écornées, fatiguées, la chaussaient. Malgré eux, des hommes en la voyant se plaisaient à s'imaginer que cette femme leur appartenait, qu'il la dévêtissait, puis, jetant ses effets, qu'il la recouvrait de toilettes fraîches. Elle démêlait ce désir. Aussi n'éprouvait-elle aucune gêne d'être mal mise, ni d'envie à l'égard des femmes élégantes. À chaque instant, elle manifestait son indépendance par des mous et des volte-face imprévus. Toujours, elle semblait dire « Belle comme je suis, je n'ai besoin de personne. J'ai bien le temps de choisir un ami. » Elle traitait les hommes avec hauteur. Elle ne pouvait leur parler sans que tout de suite, ce qu'ils désiraient d'elle lui apparût. « Ils sont tous pareils, » disait-elle. Les plus beaux comme les plus laids, elle les faisait courir à des rendez-vous auxquels elle ne venait pas, et s'il lui arrivait de monter avec l'un d'eux dans un taxi, elle descendait subitement en cours de route où qu'elle se trouvât lorsqu'il devenait trop entreprenant. « On est camarades, c'est tout !» Elle rêvait pourtant d'un homme qu'il adorerait, avec lequel elle se marierait et près duquel elle vivrait jusqu'à sa mort. Mais elle ne pouvait se décider à faire un choix. Il lui apparaissait que si elle se trompait, ce serait fini d'elle, qu'ensuite plus aucun homme ne la désirerait vraiment, qu'elle ressemblerait à ces femmes à qui elle souriait, mais dont le nombre des aventures l'épouvantait. Elle regarda longuement Nicolas. L'expression douce de son visage, ses manières réservées, lui plurent. Aussi, sans penser, par coquetterie, se leva-t-elle presque aussitôt, sous le prétexte de chercher, sur l'espèce de buffet qui se trouvait dans un coin, des journaux illustrés. Elle aimait à se montrer debout. Au cinéma, après les entr'actes, elle était toujours la dernière à reprendre sa place. Quand elle était contrainte de rester assise, il lui semblait qu'elle était confondue avec la foule, que personne ne la remarquait, et cela lui était insupportable. Elle marcha, le corps moulé dans un léger manteau qu'elle maintenait fermé au-delà de la ligne des boutons, cambrant les jambes, affectant un déhanchement qui faisait dire aux autres femmes que ce n'était pas naturel. Avant de se rasseoir, elle plia une jambe et, se tournant à demi, regarda le talon de sa chaussure. Nicolas ne la quittait pas des yeux. Il voulait lui parler, mais il n'osait pas. Dans ce café, où seulement 4 clients jouaient aux cartes près de cette femme qui le regardait, tout l'incitait à s'approcher d'elle. D'un instant à l'autre, il pouvait arriver quelque chose. Un homme le devancerait. Elle partirait. Alors qu'en parlant à cette seconde, rien n'était changé. Il s'assit à la table voisine, comme il le faisait toujours quand une femme était seule. Il attendait à présent qu'elle se tournât vers lui, auquel moment il lui sourit. Mais la jeune femme paraissait s'intéresser aux journaux à un tel point qu'elle semblait de ne pas s'apercevoir qu'elle levait sa jupe pour tirer ses bas ou, afin de donner plus de vraisemblance encore à son inattention, qu'elle se grattait la tête, laissant ainsi sous-entendre qu'une femme ne fait pas cela quand elle sait qu'on la regarde. Au bout d'un moment pourtant, elle se tourna négligemment vers Nicolas et posa son regard dans le sien. Il n'osa sourire comme il l'avait projeté, et le premier baissa les yeux. Quand il releva la tête, elle s'était de nouveau plongée dans sa lecture. « C'est idiot, » pensa-t-il, « j'avais là une belle occasion de lui parler. » Plus le temps passait, plus il redoutait qu'elle ne se levât ou que quelqu'un de plus audacieux que lui ne s'installât à côté d'elle. Soudain, ses éventualités lui parurent si proches qu'il pensa « Tant pis, risquons le tout pour le tout, on verra bien ce qui arrivera. » Songeant déjà au soulagement qu'il ressentirait après, de quelque façon qu'il fût reçu, il demanda « Vous attendez quelqu'un, mademoiselle ?» Ce mademoiselle lui sembla drôle dans sa bouche. Par opposition, tous les surnoms, Lulu, Cocotte, Pépé, Trésor, toutes les familiarités, toucher les paupières, lui dire « Tais-toi », changer de bague, se présentèrent à son esprit. « Je n'attends personne et j'attends tout le monde !» Comme si cette réponse était venue à la suite d'une longue conversation, elle repoussa les journaux et s'accouda franchement face à Nicolas. « Cela vous étonne, monsieur ?»« Non, mais je ne comprends pas très bien. »« Pourquoi voulez-vous chercher à comprendre? Il ne faut pas chercher à comprendre dans la vie. » Ce brusque changement d'attitude dérouta Nicolas en même temps qu'une joie immense l'envahit. Du moment qu'une femme l'écoutait, il était certain de plaire. Aucune profession ne l'enlaidissait puisqu'il ne faisait rien. Il ne blessait jamais personne, il était libre. « On aurait dit que vous attendiez quelqu'un, » fit-il. « Et vous, on aurait dit que vous cherchiez à lier connaissance. Cela doit vous arriver plus souvent qu'à votre tour. » « Pourquoi dites-vous cela ?»« Vous êtes drôle. Vous me parlez sans me connaître. Alors ce n'est pas difficile à deviner ce que... »« Vous vous trompez. Je vous ai parlé parce que je vous trouve plus belle que toutes les autres femmes. » »«
On dit cela. On dit cela. » chanta-t-elle.
De bavarder ainsi, Nicolas ne se lassait jamais. Ses conversations étaient à ses yeux ce qu'il y a de plus doux dans la vie. Au moment d'abattement, c'était à elle qu'il pensait. Il lui semblait que rien sur terre n'était aussi agréable que de causer avec une femme qu'on désirait et qui ne se dérobait pas.
« Comment vous appelez-vous? Votre petit nom seulement. » « On l'appelait Simone, » chanta-t-elle encore.
« Simone ?
Oui, et vous ?
Nicolas.
Saint-Nicolas, patron des vieux garçons. »
Il remarqua qu'elle avait de petites dents blanches qui ne se touchaient pas et se souvint qu'enfant, il s'était moqué d'une denture semblable en ces termes. On dirait une grille. Il ne pouvait détacher son regard de son visage, cependant qu'il pensait qu'il avait enfin trouvé une femme qu'il aimerait, que sa vie allait changer. Soudain, il lui vint l'idée qu'elle supposait qu'il était riche, qu'elle avait peut-être un amant, et la phrase mystérieuse du début « J'attends personne et j'attends tout le monde » dansait dans son esprit. « Elle croit que j'habite un grand appartement, que je possède une automobile, que je vais la conduire chez moi, lui acheter des robes. » Il imaginait déjà l'expression qu'elle aurait en apprenant la vérité. « Vous venez souvent dans ce café ? » demanda-t-il.
« Quelquefois. » « J'avais soif. Et vous ?»«
Moi aussi, j'avais soif. » »«
Nous avions soif tous les deux.
Et nos verres sont encore pleins. » »«
On peut avoir soif et ne pas boire, »
fit Simone, un peu gênée de paraître vouloir flirter. « On peut aussi avoir sommeil et ne pas dormir. » »«
Ne vous moquez pas de moi, sans quoi je me moque de vous. » »«
Vous ne sauriez pas. » »«
Voulez-vous que j'essaie ?»
Nicolas connaissait quelques-uns de ses défauts physiques. Il aurait voulu se dérober, mais il sentit que c'eût été les avouer, et après tout, il n'était pas sûr qu'elle les découvrit.
« Essayez, » dit-il. « Vous avez des doigts de singe. »
Il était en effet allongé, osseux et de la même grosseur à l'extrémité qu'à la base. À ce moment, deux jeunes gens entrèrent dans le café, et, voyant Simone causant avec un homme dont la consommation se trouvait sur une autre table, comprirent tout de suite ce qui s'était passé. Aussi voulurent-ils montrer que des liens d'amitié les unissaient à la jeune fille.
« Bonjour, Simonette !» fit l'un d'eux en lui prenant la main, cependant que l'autre s'asseyait à son côté.
Nicolas s'éloigna un peu. Il ne savait quelle attitude adopter.
« Un ami !» dit-elle en le désignant aux deux hommes.
Ils le saluèrent d'un geste de la main. Tous deux étaient vêtus de complets gris clair que tachaient des foulards, des pochettes voyantes, des souliers en peau de crocodile. Ils affectaient de ne pas tenir compte de la présence de Nicolas. Pourtant, ils prenaient plaisir à laisser deviner un milieu et des habitudes que Nicolas ne connaissait pas. « Vous avez vu Georges ?» demanda le plus grand, cependant que l'autre, regardant les cheveux de Simone, fit sur un ton paternel « « Vous devriez les laisser pousser un peu. Ils sont trop courts dans la nuque. »«
Vous trouvez ?» fit Simone en se tournant vers Nicolas.
« Non, c'est juste ce qu'il faut. » Au bout d'un moment, l'un des deux jeunes gens fit à Simone. « Nous étions venus vous chercher. Nous allons à Versailles. Voulez-vous venir dîner avec nous ? Ce sera plus amusant à trois. »
« Et le monsieur ?»
« Le monsieur, cela lui est égal. » « N'est-ce pas, monsieur, que cela vous est égal ?» Nicolas fit un signe affirmatif de la tête. Simone le regarda avec étonnement.
« Cela vous est égal ?
Sentant le regard des deux hommes posés sur lui, il n'osa répondre, ni même prendre une expression qui laissa deviner sa pensée.
« C'est bien. Je vous accompagne, messieurs, » fit Simone.
Resté seul, Nicolas se sentit envahi par un profond chagrin. Il attendit quelques minutes, avec l'espoir qu'elle reviendrait, puis il sortit. La situation désespérée dans laquelle il se trouvait lui apparut de nouveau. Il était 7 heures. Pour voir si sa mère était rentrée, il passa devant l'hôtel. La fenêtre était entr'ouverte comme il l'avait laissée. Il se rendit alors à la crèmerie.